Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot, Coupe du Monde Féminine.
Arnaud Valadon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'Intégral Foot jusqu'à 15h20. Spécial 8e de finale de la Coupe du Monde Féminine en Australie, en Nouvelle-Zélande. Coup d'envoi dans une heure de France-Maroc, émission spéciale sur RMC avec le match en direct et en intégralité. Vous retrouverez Estelle Midi et les meilleurs moments demain. Dispositif donc exceptionnel sur l'antenne. On sera avec notre envoyé spécial Anthony Resch à Adélaïde en Australie. Élise Busaglia, notre consultante RMC pour cette Coupe du Monde, sera aussi avec nous, ancienne internationale. Fleur Jaffrelot aussi, journaliste et ancienne joueuse de D1, D2, et Aurélien Tiercin aux commentaires. Une heure d'avant-match avec des invités à venir. Corinne Petit, 89 sélections, l'ancienne défenseur notamment de Lyon. Et puis Sarah Mbarek, ancienne internationale aussi et coach du RC Lens féminin. Les compos dans un instant, les enjeux de ce premier match à élimination directe France-Maroc, premier match à élimination de la France d'Hervé Renard et des joueuses à la Coupe du Monde féminine. Le 32-16 est ouvert, hashtag RMC Live et appli direct studio pour vos messages.
RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Et allez les Bleus, les supporters sont là. Et l'une des premières supportrices de cette équipe de France, c'est notre consultante RMC, Élise Busaglia. Bonjour Élise.
Bonjour à tous.
Avec nous aussi en plateau, Fleur Jaffrelot, journaliste spécialiste du foot féminin. Salut Fleur.
Salut à toutes et à tous.
Et on est aussi avec Anthony Resch depuis Adélaïde au stade qui va accueillir ce match au Inmarsch Stadium pour être précis. Bonsoir Anthony, pour toi.
Oui, bonsoir, bonjour, salut à tous.
Puisqu'il est à 19h30 en Australie, Élise, c'est le parfum, j'allais dire que trêve de plaisanterie, même si la phase de poule fut sérieuse, on est invaincu du côté de l'équipe de France, mais là, c'est un match à élimination directe, le parfum est totalement différent.
Oui, oui, totalement différent. Là, voilà, ce sont les matchs couperets. La pression est beaucoup plus intense. L'excitation aussi, vraiment, là, c'est comme l'a dit Kenza en conférence de presse, et tu restes ou tu rentres. Donc voilà, c'est vraiment l'excitation des matchs à élimination directe.
Est-ce qu'on a les compos, Anthony Resch, à Adélaïde? On arrive à une heure du coup d'envoi. C'est pas loin d'être officiel, ou en tout cas, les tendances très fortes.
Ça y est, c'est officiel depuis quelques minutes et ça sera donc un 4-4-2 pour Hervé Renard avec un changement principal. C'est Maël Lacrar qui ne sera pas disponible en défense centrale pour ce huitième de finale. Isabelle Meda, la défenseur du Paris Saint-Germain, fera la paire en défense centrale avec Wendy Renard dans les buts. Évidemment, Pauline Perrault-Magnin, la défense de gauche à droite, Sakina Karchaoui, Wendy Renard, la capitaine, Elisabeth Almeida et F. Périssé au milieu de terrain. Grace Gueyoro et Sandy Toliti seront pour l'animation. Sur le côté droit, Kenza Dalis. Sur le côté gauche, Selma Bacha, et l'attaque sera animée par Eugénie Le Sommer et Kadi Yatoudiani.
Donc Anthony, confirmation que Maël Lacrar est toujours gêné par sa cuisse.
Ouais, tout à fait. Hier, lors de la dernière séance d'entraînement, elle n'a pas du tout participé au jeu collectif ni aux oppositions. Elle a couru en individuel, elle a fait du vélo. Donc c'était vraiment très compliqué pour l'avoir débuté aujourd'hui, même si Hervé Renard a voulu attendre quand même le dernier moment, à savoir ce matin, un ultime échange avec Maël Lacrar, un peu comme il l'avait fait certainement avec Wendy Renard, mais là c'était trop juste. Et puis en vue d'une compétition qui pourrait aller plus loin pour l'équipe de France, le staff a préféré ne pas prendre de risques la garder pour un éventuel au chaud entre guillemets, pour un éventuel quart de finale, si quart de finale il y a.
Anthony, à Adélaïde, où se déroulera dans 53 minutes le match, le huitième de finale France-Maroc, à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Élise, mine de rien, c'est la quatrième charnière en quatre matchs. Et ce qui est un petit peu l'ironie entre guillemets de l'histoire, c'est que De Almeida, Renard, c'était avant cette Coupe du Monde la charnière qui était censée être titulaire à tous les matchs.
Oui, c'est vrai que ce sont les deux joueuses qui avaient fait le plus de matchs amicaux ensemble sous l'ère d'Hervé Renard. Ensuite, Maël Lacrar avait pris un petit peu le dessus, avait marqué des points et puis avait fait des bonnes prestations. Donc c'est elle qui était censée être alignée. Maintenant, elle a ce petit pépin physique. Voilà, espérons que De Almeida s'est bien préparé, en sachant qu'effectivement Maël était un petit peu diminuée. Donc je pense qu'elle a préparé son match aussi. Donc voilà, on va la retrouver sur ce match-là avec Wendy.
Elisa De Almeida, joueuse du Paris Saint-Germain, Fleur, qui, on peut le dire, est revancharde parce qu'elle a été
titulaire contre le Panama et ça s'est pas forcément bien passé.
Je pense qu'elle est, elle est revancharde aussi du contexte qui a accompagné pour elle personnellement cette Coupe du Monde. Elle a un petit pépin physique avant de débuter la compétition. Elle est dite prête pour le début. Et puis vient cette petite blessure au mollet avec un coup à l'entraînement. Et puis ce retour face au Panama qui a pas été tout beau tout rose comme on dit pour elle. Et elle est là, c'est des huitièmes de finale à elle de montrer qu'elle était pressentie avant cette compétition pour faire partie de ce 11 titulaire. À elle de montrer de montrer des choses. Et puis on a de la chance, hein. Maëlle out, Elisa de Almeida titulaire, il y a pire quand même.
Oui, j'allais dire, c'est plus dans le secteur défensif, Elise, on est beaucoup plus riche quand on prend la liste des 23 d'Hervé Renard qu'éventuellement sur le secteur offensif où on a des options un peu plus limitées.
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de réserve, on va dire. Après, effectivement, de Almeida, elle est capable de rentrer dans cette Coupe du Monde aujourd'hui, parce que c'est vrai que le match de Panama a été difficile pour elle. Mais voilà, elle a l'expérience, elle joue dans un grand club aussi, au PSG, elle a joué la Ligue des Champions, donc elle a beaucoup d'expérience. Et effectivement, dans le domaine défensif, on a quand même de la ressource. Et je pense que c'est vrai qu'Hervé Renard a l'embarras du choix.
France-Maroc, c'est finalement une affiche pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde que l'on n'attendait pas forcément, puisque les Marocaines sont passées juste devant les Allemandes en phase de poule. C'était une surprise, surtout quand on voit le résultat de la première journée, un 6-0 de l'Allemagne face au Maroc. Et finalement, les Marocaines qui ont fait un finish incroyable en battant notamment les Colombiennes. Est-ce que ce match a tout du match piège, Élise, parce que les Marocaines... Elles connaissent bien les joueuses françaises. Beaucoup sont passées par la D1, D2, parfois même les équipes de France. Je fais référence à Lamari, un des atouts offensifs majeurs de cette équipe marocaine. Et l'entraîneur Rénal Pedros a entraîné l'Olympique lyonnais de 2017 à 2019. Il y a vraiment tous les ingrédients du match au piège, Élise.
Oui, on peut le dire comme ça. Après, moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'en fait, on est prévenu. Donc, du coup, pour moi, c'est plus un piège. Voilà, le Maroc a pas du tout volé sa qualification. Elles sont vraiment allées chercher les deux victoires sur leur dernier match après avoir reçu vraiment une gifle face aux Allemandes. Mais voilà, elles ont bien réagi. Je pense que l'équipe de France est quand même largement favorite. On verra tout à l'heure peut-être avec les paris. Mais la France reste largement favorite et elles sont prévenues. Donc pour moi, c'est pas un piège. Elles doivent vraiment imposer leur rythme, imposer leur qualité sur ce match et elles doivent s'imposer sur ce huitième de finale.
Et c'est aussi le discours d'Hervé Renard en avant-match. Les Bleus sont prévenus. Le Maroc n'est pas là par hasard.
Quand on se qualifie pour un huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualité. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Vous regardez, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont allées en demi-finale au niveau masculin d'une Coupe du Monde. Et puis en huitième de finale, vous prenez aujourd'hui, il y aura les Pays-Bas, la France et puis le Maroc. On peut dire qu'aujourd'hui, le Maroc fait partie des meilleures nations du football mondial. C'est la récompense d'un travail depuis une dizaine d'années remarquable.
Parce qu'il y a énormément de liens, Fleur, entre les joueuses françaises et marocaines. Alors, parfois, il y a les liens football, les liens du sang pour Sakina Karchaoui, dont le papa et la maman sont marocains.
Oui, évidemment, il y a des joueuses qui ont ce lien familial, ce lien personnel très fort, comme Sakina. Après, il y a aussi Anissa Lamari qui a pu évoluer, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec les jeunes de l'équipe de France. Et puis il y a ce lien amical aussi entre deux joueuses. Il y a Anissa, je pense à Anissa Lamari du côté du Maroc et Grace Gueyoro du côté de l'équipe de France. Moi, j'ai pu connaître, j'ai pu vivre avec elle quand on était à Clairefontaine étant jeune. Et ça, c'est un duo, c'est une réelle amitié, c'est quelque chose qui s'est quand on était à Clairefontaine, il y a des liens beaucoup plus forts qui se développent. Ces deux filles qui ont grandi ensemble, qui ont tout vécu, les équipes de France jeunes, qui ont vécu leurs premières désillusions sportives, leurs premiers moments de joie sur le terrain aussi. Ces deux filles qui ont évolué dans le même club. Alors, il y a ce lien familial, personnel, et puis il y a ce lien amical qui s'est créé aussi.
Est-ce que c'est si facile que ça, Élise, ancienne internationale? J'imagine que tu as dû affronter aussi bien en club, en international, des amis ou des joueuses qui t'étaient proches. C'est facile de faire abstraction tout de suite, surtout quand c'est un huitième de finale de Coupe du Monde. On peut comme ça, sur un interrupteur, mettre les émotions de côté, mettre les liens affectueux que l'on peut avoir.
Oui, dans le match, oui. Après, il y a des situations sur, par exemple, des tirs au but. Ça peut être beaucoup plus difficile quand on connaît la gardienne, par exemple. Mais sur un match, oui, on met tout ça de côté. Et ce qui prime, voilà, c'est la victoire. Les deux équipes vont tout donner pour se qualifier pour les quarts de finale. Et forcément, même si on a des amis de l'autre côté, même si effectivement, il y a des liens qui peuvent être très forts, ou alors d'un point de vue émotionnel, comme ça va être le cas pour Karchaoui. Voilà, je pense qu'une fois les hymnes passés, tout ça c'est mis de côté. Une fois que le coup d'envoi est parti, voilà, il y a plus qu'une équipe qui passera en quart, et là tout le monde veut tout donner pour y accéder.
Il est 12h14 sur RMC. C'est l'intégral foot spécial Coupe du Monde féminine, puisque à 13h, vous suivrez en direct et en intégralité le 8e de finale de l'équipe de France féminine à la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est France-Maroc, dispositif exceptionnel comme sur chaque match des Bleus. On est avec Élise Busseglia, avec Fleur Jaffrelot, les envoyés spéciaux RMC. On revient dans un instant. On sera notamment avec Corinne Petit, ancienne internationale, près de 90 sélections. J'ai arrondi, c'est 89 pour l'ancienne joueuse en défense et au milieu de terrain de 2003-2014 en équipe de France. Le hashtag RMC Live et l'appli Direct Studio pour vos messages. Évidemment, le 32-16 est ouvert. À tout de suite dans l'Intégral Foot.
RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
12h17 sur RMC, c'est l'intégral foot spécial Coupe du Monde féminine à 13h. Le coup d'envoi de France-Maroc à suivre en direct et en intégralité. C'est le 8e de finale, premier match à élimination directe. Les Bleus sont actuellement à l'échauffement. On les voit, Ellie, avec Jenny Le Sommer, avec également la capitaine Wendy Renard. Elles sont toutes là. Le dispositif RMC est aussi en place avec Élise Busseglia, deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des Bleus. Fleur Jaffrelot en studio. Comment sont ces moments, Élise, toi qui en as vécu des huitièmes de finale? Là, l'échauffement, on est concentré, il y a beaucoup d'adrénaline, on essaye un petit peu d'évacuer. Comment on est?
Ouais, bah on est déjà dans son match. Il y a beaucoup de concentration et puis de la préparation pour bien entamer le match. Donc voilà, on est déjà très déterminé, très concentré sur chaque geste que l'on va faire. Et puis voilà, on se prépare, on se motive les unes avec les autres. Et on se donne peut-être les derniers petits conseils sur le jeu, ou voilà, rappeler un petit peu les dernières consignes. Et voilà, après on est dedans, c'est lancé. Et là, une fois qu'on est sur le terrain, on lâche un peu tout. Hein.
À quelle heure, toi, tu rentrais déjà dans ton match? C'était, je sais pas, au réveil de la sieste à l'hôtel? Il y avait un moment où tu faisais une petite bascule?
Moi, j'aimais bien rester toute seule dans le vestiaire quand les filles allaient sur le terrain, reconnaître le terrain. Je restais tout le temps dans le vestiaire, quasiment toute seule, parce qu'elles sortaient toutes, hormis peut-être des fois Sarah Bouadi. Mais sinon, j'avais un petit moment à moi, 2-3 minutes, voire 5 minutes, toute seule dans le vestiaire. C'était là où vraiment je me mettais dans ma bulle.
Et on accueille Corinne Petit, ancienne internationale et 10 fois championne de France avec Lyon, qui est avec nous. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu confirmes, Corinne, que Élise aimait bien rester toute seule dans le vestiaire à la fin, avant l'entrée sur le terrain pour l'échauffement?
Ouais, elle avait son petit moment à elle, avec sa petite musique. Mais ouais, c'est bien, chacun a ses petits rituels différents, c'est important.
Tu nous as caché la petite musique, Élise, c'était quoi à l'époque?
Oh là, j'avais pas de... Non, il y avait, je sais pas, ça pouvait être MGMT, Time to Pretend.
Ah oui, un petit peu de la pop électro, comme
ouais,
ça,
voilà.
Concentration. Bon, Corinne, est-ce qu'il y a de la confiance pour ce match face au Maroc, qui était l'adversaire, on l'a dit, que l'on n'attendait pas, mais qui a réussi quand même la performance de battre la Colombie qui est en quart de finale après la victoire tout à l'heure des Colombiennes 1-0 face aux Jamaïcaines. Quelles sont les clés de cette partie pour vous, Corinne?
Les clés, ça va être la concentration, l'application, parce que même s'il faut pas prendre le match facilement, faut être objectif, et on est favorite, donc voilà, être bien concentré. Et je pense que si on arrive à reproduire un peu ce qui s'est passé contre le Brésil, en mettant beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme et une grosse maîtrise collective, j'espère que ça va le faire.
Est-ce que là c'est obligatoire d'être constante sur 90 minutes, parce qu'on a vu les Bleus, eh bien, parfois avoir des temps faibles, le retour de deuxième mi-temps face au Brésil où on prend un but, et la deuxième mi-temps contre le Panama.
Oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, sur des grosses compétitions comme ça, ça peut jouer sur des petits détails. En plus, cette Coupe du Monde apporte beaucoup de surprises. Donc, faut faire attention à tout. Ne pas se frustrer si ça va pas assez vite. surtout au niveau du score. Parce que bah, là, il peut se passer n'importe quoi, faire une faute bête ou des choses comme ça qui pourraient peiner après toute l'équipe. Donc voilà, être concentré et patient.
Élise, je ne sais pas si tu as une réflexion ou une question pour Corinne.
Non, je voulais savoir peut-être juste s'il y avait une joueuse ou une équipe qui l'avait particulièrement marquée depuis le début de la compétition.
Bah c'est sûr que la petite colombienne est impressionnante. Après, sur une équipe complète, je trouve que le Japon, c'est fou ce qu'elles produisent à chaque compétition et depuis des années, elles sont toujours présentes. Elles répondent jusqu'au bout, en général, dans le dernier carré, voire plus. Et c'est fou parce qu'elles n'ont pas des joueuses du foot moderne, on va dire. Elles n'ont pas de joueuses très puissantes, très, très rapides, qui prennent la profondeur comme c'est un peu la mode en ce moment, offensivement surtout. Et pourtant, ça fonctionne toujours parce qu'il y a une technique bien au-dessus de la moyenne, une intelligence de jeu. Et du coup, je trouve que c'est impressionnant par rapport à ça, cette équipe-là.
Corinne Petit est avec nous, ancienne internationale. On est aussi avec Élise Bussaglia. Elles étaient partenaires ensemble. Il est midi 22 sur RMC. On est aussi avec Fleur Jaffrelot puisque dans 40 minutes, c'est France-Maroc, ce huitième de finale. Corinne, comment vous expliquez toutes ces surprises un petit peu dans cette Coupe du Monde? On a vu les États-Unis prendre la porte. On a vu les Allemandes prendre aussi la porte. Ça vous a surpris comme tout le monde? Ou quand on voyait aussi le jeu, la dynamique, ce qui était proposé à la fois par ces nations qui ne sont plus là et les autres? Vous avez aussi cité le Japon, mais on voit les Australiennes être très bien dans leur compétition, les nations africaines. C'est pas tant une surprise que ça?
Non, enfin, bien sûr, hein, que ce serait mentir que de voir déjà l'Allemagne et les États-Unis, entre autres, être chez elles. Mais voilà, ça montre que le foot féminin devient de plus en plus homogène, que ça travaille bien de partout, même dans les plus petites nations. Et que même si... après, nous, on connaît aussi beaucoup mieux toutes ces équipes-là, les équipes qu'on voit que sur les grosses compétitions tous les 4 ans ou au JO, et ben, on ne connaît pas toutes les joueuses non plus. Elles font moins partie des championnats européens ou des gros championnats. Et c'est vrai que il y a aussi beaucoup de qualité dans ces équipes africaines, dans ces équipes voilà, qu'on connaît un peu moins. Donc, c'est une grosse surprise de voir ces grosses équipes qui étaient... clairement dans les grandes favorites, déjà sur le côté, ça c'est sûr.
Une question de Fleur Jaffrelot, notre journaliste.
Oui, c'est un petit peu, ça peut être pour toutes les deux, Élise et Corinne. Je voulais savoir ce que vous en pensez, vous, des équipes africaines, quand vous étiez à l'apogée de vos carrières. On les voyait moins, bon, le Nigeria un petit peu, mais là, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc comme première équipe arabe qui se qualifie pour des huitièmes de finale. Qu'est-ce que vous pensez de ce continent africain dans le foot féminin qui est en train de... c'est une énorme évolution.
Oui, bah c'est sûr que quand nous on était, on va dire à l'apogée, les équipes africaines étaient quand même un petit peu plus faibles, même si effectivement le Nigeria Nigeria, Cameroun ont toujours été présentes. Là, on voit vraiment que le football africain se développe. On sait que voilà, que ce soit chez les garçons ou les femmes, il y a beaucoup de talent au niveau sportif dans ce continent. Après, il faut aussi que les moyens soient mis en place, et je pense que c'est le cas depuis quelques années au Maroc. Il y a vraiment du travail fait par la fédération, et quand, en général, quand le travail est fait et bien fait, les résultats arrivent. Donc que ce soit pour les hommes ou les femmes, là on voit bien que le Maroc récolte les fruits du travail mis en place.
Avec un sélectionneur français, Reynald Pedros. Corinne Petit, est-ce que il y a un coup de cœur sur cette première phase de poule côté français? Voilà, une joueuse qui va un petit peu taper dans l'œil de manière positive.
J'ai essayé d'être objective, mais c'est vrai que je suis contente pour Eugénie parce que je trouve qu'elle a retrouvé un niveau qu'elle avait peut-être un petit peu perdu. Moi, c'est une joueuse que j'ai toujours adorée, une des meilleures offensives françaises depuis longtemps maintenant. Mais c'est vrai qu'elle a un tout petit peu moins de temps de jeu à Lyon. Elle avait perdu sa place en sélection et elle a continué à travailler. Elle a pas lâché mentalement. Et elle prouve qu'elle est toujours très importante. Et je trouve que sur la phase de poule, même si elle a pas joué le dernier match, ben voilà, elle s'est montrée décisive, elle s'est montrée généreuse et juste. Et je suis contente de la retrouver à ce niveau-là.
avec une association qu'on sent elle peut donner beaucoup plus, mais on a déjà vu les prémices, Élise, avec Dali devant, on sent qu'il y a de la complémentarité dans ce duo.
Oui, exactement. C'est le mot que j'allais utiliser. Il y a beaucoup de complémentarité avec Eugénie qui peut être un point d'appui avec son jeu qui est assez technique. Et puis elle peut faire des décalages. Et puis Gianni qui prend la profondeur, qui utilise bien les espaces et qui a beaucoup de puissance et de vitesse. Donc c'est vrai qu'elles sont plutôt complémentaires et intéressantes sur le plan de l'attaque tricolore.
Évidemment, il y a ce huitième de finale à gagner, Corinne, Élise et Fleur, mais est-ce que on a de fortes ambitions? On a annoncé le dernier carré. Évidemment, tout dépendra de ce qui se passera à partir de 13h, ce France-Maroc, mais est-ce que vous ressentez un petit peu des bonnes ondes, Corinne, aussi?
Ouais, complètement. De toute façon, il faut y aller pour aller au bout. Un huitième, c'est bien. Une demi, c'est bien, mais... on l'a vécu, et Élise le sait aussi, en fait, ne pas aller au bout d'une compétition, c'est tellement de frustration quand on a un groupe de qualité, des joueuses de qualité qui font partie, pour certaines, des meilleures mondiales depuis maintenant quelques années. Voilà, le nouveau coach qui arrivait à donner un nouvel élan, une bonne dynamique. Bien sûr, faut y croire, le titre est possible.
On est favori, est-ce que ça peut être un danger, Corinne?
Oui et non, parce qu'on a aussi de l'expérience, donc on sait ce statut-là, on l'a déjà vécu. Même s'il y a beaucoup aussi de jeunes dans ce groupe qui vivent leur première grosse compétition, mais elles vont apporter la folie et tout ça qu'il faut au moment opportun. Et puis les plus grandes, les plus vieilles seront là pour gérer ce côté favori. Mais non, il faut assumer sans être trop hautain, mais voilà, y aller avec... avec la détermination de ses qualités.
Est-ce que Marketo est une clé? Je sais pas, j'ai sous les yeux, par exemple, France-Corée du Sud en 2015, à la Coupe du Monde, où il y a Marie-Laure Delis qui marque dès la quatrième. C'est débloquer tout de suite la situation, ça sera important contre le Maroc, peut-être Élise, sur ça?
Oui, ça peut l'être. Après, un huitième de finale, ça se jouera de toute façon jusqu'au bout. Mais c'est vrai que si on peut un petit peu éteindre les velléités offensives marocaines, ce serait pas malvenu. Et puis briser un petit peu, entre guillemets, leur rêve. Parce que c'est vrai qu'elles sont sur... un petit peu sur l'euphorie de leur qualification. Elles sont sur des dernières années là quand même très très intéressantes entre la CAN et la Coupe du Monde. Là, leur Coupe du Monde, pardon, elle est déjà réussie hein, en soi. Personne les voyait, ou très peu de monde en tout cas les voyait sortir de la poule, surtout quand on a l'Allemagne dans sa poule et la Colombie. Voilà, donc leur Coupe du Monde est déjà réussie. Maintenant, c'est vrai que si la France peut marquer rapidement, ça forcément leur mettrait un petit coup de massue sur la tête. Mais elles ont montré qu'elles avaient aussi des ressources mentales. Donc de toute façon, le match sera jamais terminé. Mais bon, un but, de toute façon, qu'il soit marqué à la première ou à la 90e, on le prend. Hein.
Oui, c'est sûr. Hein, du moment qu'il y a la victoire dans le temps réglementaire, si possible, on signe. Est-ce que vous avez un petit pronostic, Corinne, ou pas?
Je vais dire victoire de la France. Un 2-0, ce serait bien pour se donner confiance. Voilà, pour la suite aussi.
Je vais me mettre taquin, je vais demander peut-être des buteuses.
Je vais dire Eugénie et Grace, parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas marqué, mais voilà, elle est tellement importante et elle peut apporter dans cette surface quand elle monte. Voilà, je vais dire ces deux-là.
Moi, ça me plaît, Grace buteuse, Élise aussi.
Ah ouais, ça me plaît. C'est une joueuse qui peut être très efficace quand elle est à l'approche de la surface. Donc on a même envie de parfois qu'elle tente un peu plus parce qu'elle a de la qualité et elle doit prendre sa chance un peu plus souvent. Donc ouais, j'aimerais bien que Grace marque un but. Ouais.
Est-ce qu'il y a unanimité, Fleur? 2-0, le Sommer, Guillaureau.
Je vais me ranger sur le score, sur une buteuse. Allez, je vais mettre Eugénie aussi, parce que je pense que ça lui fera du bien. Et moi, je vois un petit but de notre charnière. Je mettrai Wendy ou Elisa sur un corner.
C'est vrai qu'on a aussi cet avantage physique sur corner, avec évidemment Wendy qui son mètre 85 pratiquement, un peu plus, 87
oui.
Domine sur coup de pied arrêté. Et on se souvient évidemment de ce but avec ce corner de Selma Bacha pour la tête de Wendy Renard contre le Brésil. Merci beaucoup Corinne Petit d'avoir été avec nous.
De rien, merci à vous.
Et très bon match, et on espère évidemment une victoire de nos Françaises, puisque dans 30 minutes, c'est France-Maroc, ce huitième de finale à vivre en direct et en intégralité sur RMC, huitième de finale à la Coupe du Monde. Mamad a composé le 32-16, et il est avec nous, bah, c'est Mamad de Fresnes, salut Mamad.
Exactement, salut, ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va, ça va. Bah, la dernière fois, je l'ai passé, je m'attendais à ce que ça soit l'Allemagne. Finalement, cette Coupe du Monde, elle nous réserve énormément de surprises. Et c'est d'autant mieux, ça veut dire que toutes les équipes progressent en fait. Hein. Il n'y a plus de petites équipes, hein. Il y a plus de. Et c'est très bien pour le football féminin.
Mais bon, peut-être qu'on va arrêter les surprises aujourd'hui, ça serait pas mal, Mamad.
Logiquement, normalement, avec l'équipe qu'on a, sans faire injure au Maroc, si on arrive à marquer très tôt, je pense que voilà, elles vont se découvrir et. Parce que je pense que Pedro, ça, il va venir avec un bloc bas. Et plus le match va avancer, et plus on va douter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on marque très tôt. D'autant plus que nous, on a des joueuses qui sont expérimentées, qui font chaque année la Ligue des Champions, et qui vont loin en Ligue des Champions avec le PSG, avec l'OL. Franchement, on n'a pas d'excuses, quoi. Là, pour moi, c'est une valise et c'est 3-0. 3-0, on fait tourner et voilà, quoi. Là, c'est l'année, mais vraiment, c'est l'année ou jamais. Parce qu'avec toutes les grandes nations qui sont sorties, si là, on n'arrive pas... Parce que là, bon, il reste le Japon. J'avoue, le Japon, c'est une machine. Mais cette année-là, si on n'arrive pas à être championne du monde... franchement, ça va être très très dur à, ça va être très très compliqué à avaler, quoi, parce que.
On ne risque pas, c'est pas un péché d'orgueil, mais d'être, de tomber un petit peu dans le piège des Marocaines. Mamad.
Non, parce qu'on a un entraîneur qui connaît, il a entraîné l'équipe masculine, mais bon, il connaît un petit peu le Maroc, et voilà. Bon, en face aussi, Pedros, qui connaît aussi l'équipe de France, et les joueuses. Donc, je pense que ça va être aussi un duel de coach, hein, parce que les deux connaissent les joueuses féminines de part et d'autre. Donc ça va vraiment être un duel de coach. Et Hervé Renard, je pense que d'emblée, il va leur enlever l'idée de la tête qu'ils affrontent une équipe plus faible. Donc, elles vont rentrer dedans. Moi, j'annonce un 3-0.
Tu n'avais pas dit ça contre le Panama non plus, Mamad.
Non, j'avais pas. Non, contre le Panama, non. Mais là, contre le Maroc, franchement, comme le Maroc, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Sortir, c'est un exploit. C'est quelque chose de très grand, ce qu'elles ont fait. Donc, pour moi, je vois vraiment victoire 3-0 de l'équipe de France et une gestion, voilà. Et j'aimerais que la petite Mathéo marque.
Qu'elle joue. Ça va peut-être rentrer en cours de partie, mais ouais, pour l'instant, elle n'est pas annoncée dans les titulaires. Merci, Mamad.
Voilà, merci beaucoup.
Et peut-être avant le quart de finale, hein, tu seras peut-être notre patte de lapin, quelque sorte, si à chaque fois qu'on a Mamad au 32-16.
J'espère bien, mais on va passer.
Allez les Bleus, effectivement. Merci beaucoup Mamad. C'est dans 26 minutes le coup d'envoi de France-Maroc à Adélaïde en Australie, le huitième de finale des coéquipières de Wendy Renard. Elles sont à l'échauffement, on retournera à Adélaïde dans quelques instants. On est toujours avec Élise Busaglia, Fleur Jaffrelot, dispositif exceptionnel sur RMC avec le match commenté en direct et en intégralité, le coup d'envoi à 13h. À tout de suite dans l'intégrale foot spéciale Coupe du Monde féminine.
RMC, Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.
Arnaud Valadon.
Midi 37 sur RMC, émission exceptionnelle pour ce huitième de finale à la Coupe du Monde féminine pour France-Maroc. Vous retrouverez Estelle Midi et les meilleurs moments. Demain, on est avec Élise Busaglia, notre consultante RMC 192 sélections, avec Fleur Jaffrelot, le match qui débute dans 23 minutes à Adélaïde. Et ce sera à vivre en direct et en intégralité sur RMC, comme depuis le début de la compétition, on était là pour les trois match de poule, toujours avec Élise, toujours avec Fleur, et nous accueillons une autre invitée, Sarah Mbarek, entraîneur du RC Lens féminin et ex-international aussi. Bonjour Sarah.
Bonjour.
avec Élise et avec Fleur. Bon, Sarah, est-ce qu'il y a de la confiance? On voit, et d'ailleurs c'est le message un petit peu de Samir sur l'appli Direct Studio, attention à l'excès de confiance, ne pas sous-estimer les petites équipes. Mais quand on entend un petit peu comment les Bleus se sont préparés, les déclarations d'Hervé Renard, de Ken Zadali, on se dit que elles ont compris, ce groupe a compris qu'il ne fallait absolument pas sous-estimer le Maroc.
Oui, en effet, c'est vrai que c'est pas une nation phare du football féminin en face, mais je pense que le Maroc a prouvé qu'elles étaient prêtes pour cette compétition et elles ont montré qu'elles méritaient leur place. Donc forcément, l'équipe de France les prend très au sérieux et a très bien préparé ce match, je pense.
On parlait du forfait de Maëlle Lacrar en défense centrale. Ce sera Elisa de Almeida en charnière avec Wendy Renard. C'est notre quatrième défense centrale différente en quatre matchs. Est-ce que ça peut être pénalisant pour nous ou c'est des joueuses qui étaient annoncées comme étant notre charnière aussi pour la compétition, hein, de Almeida Renard, et donc c'est pas trop gênant?
C'est un petit point d'interrogation quand même. En tout cas, j'ai trouvé en tout cas sur les matchs précédents qu'on avait un petit peu fait preuve de fébrilité et que si on avait un petit point faible, c'était quand même dans ce domaine-là. Donc on risque quand même d'être mise en difficulté, mais voilà, elles ont dû bien se préparer, elles ont dû prévoir aussi cette possibilité avec Elisa de Almeida qui démarre. En effet, elle a quand même déjà quelques matchs derrière elle, donc juste de la communication, beaucoup de sérieux et puis ça devrait aller.
Sarah Embarak est avec nous, titulaire du brevet d'entraîneur professionnel de football. Donc on va parler tactique et le 4-4-2, oui, d'Hervé Renard. Sarah, est-ce que il vous a plu? On a vu que on sentait une maîtrise, alors contre le Panama on a fait énormément tourner, mais contre le Brésil on a vu des joueuses beaucoup plus à l'aise par rapport au 0-0 contre la Jamaïque. On commence à l'assimiler. Pour vous, c'est ce qui nous convient le mieux par rapport à nos forces en présence?
Alors c'est vrai que moi ça m'a posé beaucoup de soucis sur le premier match. En tout cas, j'ai trouvé que on le maîtrisait pas du tout et qu'on manquait vraiment de repères et d'automatisme. Mais au fur et à mesure, ouais, on s'est montré plus efficace. Donc je me suis dit ça y est, c'est parti. Après, est-ce que c'est le meilleur système avec les forces en présence? C'est dur de se prononcer, mais c'est pas forcément le système dans lequel les joueuses expriment leur plus grande qualité, à mon sens. Maintenant, on a montré qu'on était capable de marquer des buts aussi avec ce système-là. Ça permet d'avoir quand même de la présence. Espérons qu'on puisse avoir une Diani capable de prendre les espaces, la profondeur, comme elle l'a fait contre le Brésil, et ça devrait aller.
Élie, je me tourne évidemment vers la milieu de terrain que tu fus. C'est principalement là que dans le 4-4-2 il y a un point clé, c'est d'avoir ce volume de jeu là entre Guerreiro et Toletti. On l'a vu contre le Brésil qu'elle pouvait avoir énormément de volume, parce que en 4-4-2 avec deux joueuses à la récupération, on peut parfois être en infériorité face à des équipes avec des organisations différentes.
Oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend pas forcément de Toletti et Guerreiro. Le volume de jeu, on sait qu'elles l'ont. Ça dépend surtout de Bacha et d'Ali. Si, quand le ballon est côté opposé, la joueuse à l'opposé, justement, que ce soit Bacha ou d'Ali, arrive à venir donner un coup de main à ces 2-6 au milieu de terrain, ça va, voire même avec un retour de Le Sommer qui peut venir un petit peu fermer l'axe aussi. Si elles sont que laissées entre elles, Toletti et Guerreiro, à un moment donné contre certaines équipes elles peuvent prendre l'eau, donc c'est un gros travail et de Dali et de Bacha aussi qui permet d'avoir une récupération plus importante pour Toletti et Guerreiro.
C'est vraiment le gros ajustement tactique d'Hervé Renard, Sarah, c'est-à-dire Kenza Dali titularisée contre le Brésil, où elle a le côté grinta qu'elle peut apporter en revenant au milieu de terrain. C'est vrai que Clara Matteo n'était peut-être pas venue contre la Jamaïque dans cette organisation venir soutenir au terrain, alors qu'on a vu Kenza Dali être dans ce rôle un petit peu hybride, à la fois milieu droit mais aussi venir en fonction si on se situe côté ballon ou pas côté ballon.
Oui, en effet, c'est une joueuse qui est très agressive sur le porteur de balle et qui récupère beaucoup de ballons. Selma Bacha aussi à ce registre-là, hein. Donc, comme le disait Élise, en effet, si elles font bien leur boulot et qu'elles se replacent et qu'elles viennent aider Grèce et Sandy Toletti, ça devrait.
Petite coupure avec Sarah Embarek. Sarah Embarek, Élise, c'est vrai que ce rôle de Dali, on en a quand même beaucoup parlé parce que c'est presque l'une des meilleures françaises. Bon, on a vu Khadija Toudiani marquer, Jélie Le Sommer, mais c'est vrai que on a senti qu'elle apportait une forme de stabilité, Kenza Dali, dans son positionnement.
Oui, elle a un rôle important de par son positionnement, mais aussi avec le ballon, parce que c'est une joueuse qui est très à l'aise techniquement, qui sait garder le ballon aussi quand l'équipe en a besoin. Et puis elles sont assez complémentaires avec Périsset, qui peut prendre le couloir, parce que Dali, sa force, c'est pas forcément la prise d'espace, mais c'est vrai que son rôle est très très important.
On a retrouvé Sarah Mbarek, entraîneur du RC Lens féminin. Pas de souci, Sarah, tu peux terminer.
Oui, du coup, je sais pas où est-ce que ça s'est arrêté, mais en effet, j'étais d'accord avec vous dans le sens où Kenza Dali, c'est une joueuse qui est capable de récupérer beaucoup de ballons, qui a du coffre. Selma Bacha aussi, de son point de vue, elle est aussi très agressive et peut aider l'équipe à récupérer des ballons. Mais après, en effet, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts à ces deux joueuses-là et beaucoup de communication pour conserver un équilibre dans l'équipe en général, tout simplement.
Les joueuses marocaines, quand on suit, comme vous, assidûment, la D1, la D2, on en voit beaucoup et on les retrouve dans cette équipe alignée par Reynald Pedro. C'est vraiment des joueuses, j'avais noté sur ma feuille, un petit peu biberonnées à la D1 et la D2 française. Sarah, vous en avez trouvé, rencontré en D2, hein, parce que le RC Lens féminin évolue en division 2.
Oui, on a joué contre certaines et moi j'ai surtout eu Selma Amani aussi à Guingamp plusieurs années. C'est des joueuses qui connaissent bien le championnat français, qui sont habituées à la première, à la deuxième division, qui sont habituées au niveau, qui connaissent bien les joueuses de l'équipe de France aussi. Donc elles ont peut-être à gérer les émotions qui vont arriver aujourd'hui, en plus de l'aspect tactique et de l'enjeu du match. Donc c'est sur ça, peut-être aussi sur le plan psychologique, que l'équipe de France peut avoir un atout par rapport à l'équipe marocaine encore jeune et pas forcément habituée à ce genre de compétition.
Est-ce que ça veut dire, avec la jeunesse, la fougue, le côté les Marocaines n'ont rien à perdre, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de nous faire péter les plombs, si je puis m'exprimer ainsi, Sarah?
Ouais, en tout cas, nous empêcher de nous mettre en confiance, certainement, et puis jouer leur carte à fond, jouer sans complexe. En tout cas, si elles réussissent à faire ça, c'est, à mon avis, peut-être ça qui risque de nous embêter et de nous mettre en danger. Après, si on est, nous, capables de marquer assez rapidement et de se mettre en jambes et de jouer notre jeu, ça devrait passer, parce que même sur le plan athlétique, je pense qu'on est capable de faire la différence sur la longueur du match aussi.
Bon, avant de se quitter, Sarah, un petit mot du RC Lens féminin. C'est la reprise, j'imagine. Il y a déjà eu quelques matchs amicaux. Bon, je crois qu'il y a une petite défaite contre Fleury. Bon, ça reste la préparation.
Oui, tout à fait. On a 15 jours dans les jambes. On a joué contre Fleury samedi dernier. On perd 4-1, mais c'était très intéressant dans les contenus. Et puis Fleury, ça reste du haut niveau de la D1. Donc c'était une belle opposition pour nous, même si elles n'avaient pas toutes leurs internationales. C'était très intéressant.
Et si on peut se projeter un petit peu avec vous, Sarah, c'est quoi l'objectif sportif de cette saison, une montée ?
Pas tout, enfin, ce sera pas le premier objectif, sincèrement. Le premier objectif, c'est vraiment de continuer la structuration et la construction de cette équipe. On n'a que 3 ans d'existence, hein. Donc l'idée, c'est d'évoluer tous les ans. Il y a eu une refonte du championnat, il n'y a plus qu'une seule poule en D2, donc le niveau est très relevé. Voilà, figurer de la meilleure des manières, jouer dans un premier temps le maintien, voir un petit peu comment se déroule la saison, et puis après, bien sûr, être ambitieux et aller chercher la meilleure place possible.
Voilà le petit clin d'œil au RC Lens féminin. Merci beaucoup, Sarah.
Merci à vous.
D'être passé dans l'intégrale foot sur RMC. Il est midi 46. Dans 14 minutes, c'est France-Maroc, 8e de finale à la Coupe du Monde. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde FIFA 2023. Et nous, on parie sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Guillet de la team des Paris. Salut Johan.
Salut Arnaud, salut mesdames, salut à tous. Est-ce qu'on m'entend ?
Oui, on t'entend. D'accord. Très bien.
Mon casque, les cotes. Je ne m'entends pas. C'est 1-17, la victoire des Bleus. On est très très largement favorite. 8-25, le match nul. 20, le succès du Maroc. Difficile là de trouver des bonnes cotes. Je suis allé vous chercher quelque chose dans un My Match. La France qui gagne 1-0, 2-0, 3-0, 2-1 ou 3-1 avec Diani ou le sommaire buteuse. C'est coté à 2-20. Ça me paraît pas mal. Et sinon, la petite cote bonbon qui me plaît bien, je sais que beaucoup aiment miser sur le but de Wendy Renard. Là, il n'est qu'à 2,70, mais un but de Wendy Renard de la tête, c'est à 8.
Ah, ça, c'est pas mal.
Et ça me plaît beaucoup.
Merci beaucoup, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et dans 13 minutes, c'est le coup d'envoi de France-Maroc à Adélaïde. 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Match à vivre en direct et en intégralité sur RMC Radio officielle de la Coupe du Monde FIFA 2023. A tout de suite.
RMC Intégral Foot, Coupe du Monde féminine.